Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Castin, qui est président du syndicat de la librairie ancienne et moderne, le SLAM, et qui veut nous parler, bien sûr, du livre ancien, d'autant plus que doit avoir lieu du 17 au 20 avril, sous la verrière du Grand Palais, le Salon international du livre ancien et moderne, qui est un événement qu'il ne faut surtout pas louper, car, d'une certaine manière, c'est peut-être la plus grande librairie du monde qui sera réunie pendant ces quelques jours. Frédéric Castin, comme disait une revue anglaise, je crois, britannique, il n'y a pas si longtemps, quand Frédéric Castin n'est pas en train d'écrire ses romans, il est dans sa boutique de la rue Jacob où il propose aux amateurs des autographes. C'est votre spécialité. D'ailleurs, vous, pour ceux qui sont des amateurs bibliophiles, connaissent votre nom, car c'est depuis, je crois, 1832 que la première maison a été ouverte, la maison Charavet. Et c'est votre grand-père qui l'avait reprise, si je crois bien, si je ne me trompe pas.
Mon père.
Ah, c'était votre père. On dit toujours que les libraires ne sont libraires que par hasard. Vous êtes tombé dedans dans la marmite quand vous étiez tout petit, mais vous êtes professeur, vous étiez professeur, vous écrivez des livres, des romans policiers, des romans, des essais, et vous êtes également donc libraire spécialisé dans les autographes, et en plus, depuis quelques années, président de ce syndicat assez particulier, de cette corporation qui comprend combien de membres, combien de libraires d'anciens on connaît.
Alors actuellement, nous avons un peu plus de 250 adhérents membres du syndicat.
Parce que les libraires d'anciens sont nombreux, c'est une petite communauté.
Je pense qu'il y a environ 500, 600, 700 libraires dans ce pays, 250 au SLAM. En fait, si le SLAM ne rassemble pas tous les libraires, tous les gens de la profession, en revanche, il est la seule organisation professionnelle qui existe dans cette profession.
Alors quand vous dites libraire, ça veut dire libraire de livres anciens. Alors, même si vous avez le mot moderne dans votre énoncé.
Bien sûr, libraire de livres anciens. Et il faut préciser que le terme de livre ancien est un terme générique, puisqu'elle regroupe aussi bien ceux qu'on appelle véritablement ceux qui vendent des livres anciens, c'est-à-dire de l'incunable, mais aussi ça va jusqu'aux imprimés, jusqu'aux tracts surréalistes, mais aussi les marchands de cartes anciennes, de cartes géographiques, les marchands de manuscrits, d'autographes comme moi-même, ou les marchands de photos anciennes. Donc c'est un petit monde, et en même temps qui recouvre de larges secteurs, disons, de la culture.
On dit que c'est le monde de la bibliophilie.
Le monde de la bibliophilie. On dit aussi, oui. On a l'habitude de dire que les amateurs, puisque ne parlons pas que des professionnels, parlons aussi des amateurs, qu'il s'agit un peu de l'aristocratie des collectionneurs. On pourrait revenir dans la discussion, pourquoi l'aristocratie des collectionneurs.
Vous avez prononcé un mot à l'instant qui me paraît tout à fait intéressant, c'est le mot culture. Je pense que la bibliophilie, certes l'aristocratie si vous voulez, mais la culture n'est pas réservée à l'aristocratie, mais la bibliophilie est sans doute le creuset, le fondement, quel que soit l'ouvrage que l'on puisse trouver, l'ouvrage très ancien ou l'ouvrage plus moderne, est ferment et fondamentalement de la culture. Est-ce que vous pouvez en dire plus ?
Écoutez, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'indiquer. Je dirais même que c'est un combat permanent que nous devons mener, puisque vous avez eu la gentillesse de parler de notre salon, le salon qui va avoir lieu au Grand Palais. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les professionnels du livre ancien, les amateurs, les collectionneurs, tenir le Grand Palais pour leur salon international, eh bien, ça n'a pas été chose facile. Il a fallu batailler, il a fallu convaincre, il a fallu expliquer. Et je dois dire que l'argument que je n'ai eu de cesse de mettre en avant est celui un peu que vous avez indiqué, c'est-à-dire que nous sommes avec le livre ancien, les manuscrits, aux sources mêmes de notre culture, de notre civilisation. Et il est remarquable, il est un peu étrange que nous ayons à combattre pour faire admettre cela. Mais bon, bah, nous y sommes parvenus, il faut continuer, il faut assurer le succès de ce salon, il faut assurer le succès de cette activité, parce qu'il me semble que c'est quelque chose de vital pour nous, pour les jeunes générations.
Vous avez eu un grand succès l'année dernière, c'était la deuxième fois que le salon a lieu au Grand Palais, dans le fond, comme les tableaux, comme la peinture, comme le mobilier, comme tous les éléments de la culture et de l'art. Vous avez eu combien de visiteurs l'année dernière ?
Alors, je vais vous dire le nombre de visiteurs, mais auparavant, je voudrais établir une comparaison. Cela quelques années, parce que s'il s'agit de notre 20e salon, Et jusqu'à l'année dernière, nous avions l'habitude de tenir ce salon dans les palais de la Mutualité. 3 jours pour lesquels nous avions, je dirais, 3 000, 4 000 visiteurs, que je pourrais indiquer comme étant le noyau dur de la bibliophilie. Or, en passant du palais de la Mutualité au Grand Palais, eh bien, en 3 jours, nous sommes passés de 3 500 visiteurs à 18 000 visiteurs, ce qui est considérable et qui est très encourageant pour nous. Et en même temps, pour quiconque s'intéresse un peu à ce domaine du livre, parce que ça veut dire que nous avons eu accès, ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, aux nouvelles générations. Et nous avons pu faire la démonstration de ce que le livre ancien, le manuscrit, bref, le monde du livre ancien, était quelque chose qui était digne d'intérêt, qui était une source, je dirais presque, une source infinie d'émotions, que grâce au livre, on avait accès, on pouvait opérer, puisque c'est le thème du prochain salon, le voyage, on pourrait opérer un voyage en soi-même, c'est-à-dire avoir un lien presque direct, physique, à travers le livre, le manuscrit, avec tous les grands personnages qui ont façonné, qui nous ont structurés mentalement, individuellement, chacun d'entre nous, à travers l'école, le lycée, la faculté, les relations, le lieu de naissance. Puis en même temps, un voyage à travers l'inconscient collectif, au travers d'œuvres éternelles qui sont fondatrices de la culture et de la langue française.
Certes, mais approcher un livre ancien demande la culture, on vient de le dire, mais aussi un certain nombre de moyens, car on a toujours l'impression dans le public qu'un livre ancien, un vieux livre parfois, comme on l'entend, vous savez, souvent j'ai la réflexion, j'ai un vieux livre, très vieux livre chez moi, et le livre n'est pas si vieux que ça, mais le livre, il y a un coût, car un incunable, c'est extraordinaire, mais un incunable d'ailleurs ne vaut pas forcément cher, oui, ou peut valoir très cher, et des livres plus récents peuvent valoir cher. Alors il y a un coût, il y a quand même une notion financière qui est importante.
Certes, la notion financière est importante, mais regardez, Salon du Grand Palais, vous allez avoir un peu plus de 150 professionnels venus du monde entier qui vont apporter des livres anciens, des manuscrits. Bon, et ben, si j'avais à faire, vous savez, les formules un peu lapidaires, publicitaires, on nous dit, allez, en 3 mots, ben, je dirais que on pourra trouver des trésors, on pourra acheter, se porter acquéreur des trésors, mais qui vont de, comment dire, de 100 euros à 1 million d'euros. Donc, bien sûr, 100 euros, c'est une somme pour certains. Mais enfin, je veux dire que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément inaccessible. Par exemple, je prends un exemple dans mon domaine. Eh ben, on peut acheter encore aujourd'hui un petit billet, un petit mot de rendez-vous, qui sera quand même une lettre originale de Victor Hugo, qui donne un mot rendez-vous. Bon, pas quelque chose d'essentiel du point de vue du texte, mais une petite feuille de papier sur laquelle il y aura un parfum, il y aura un léger relief de langue qui fait qu'on aura un contact direct, presque physique avec le personnage. Et je crois que ça, c'est magique. Et je crois que c'est ce qui fait tout l'intérêt de notre discipline. En revanche, si vous voulez acheter un dessin de Victor Hugo, il faudra effectivement, à ce moment-là, payer peut-être 100 fois plus. Bon.
Et la lettre de Mozart, vous souvenez-vous ?
Oui, une lettre de Mozart aussi, bien sûr.
C'est une histoire aussi qui vous est arrivée. Quelqu'un est arrivé avec une lettre manuscrite.
Oui, de Mozart. Et j'ai acheté. Donc là aussi, bien évidemment, il faudra mettre une somme plus importante. Mais vous savez, vous parlez d'une lettre de Mozart qu'on m'a apportée, qui est vendue, etc. Bon. Mais un jour, on m'apportera aussi, comme ça m'est arrivé déjà, quelqu'un arrive avec un livre de poche. Un jour, un vieux monsieur arrive avec un livre de poche dans mon magasin. Et c'était Le Vieil Homme et la Mer d'Hemingway. Et il me dit, ben voilà, je vous apporte ça. Je regarde, un livre de poche usagé, tout abîmé, tout rogné, etc. Je lui dis, mais vous savez, c'est pas vraiment pour moi. Il dit, mais attendez, il ouvre la page et il y avait une dédicace d'Hemingway. Donc déjà, c'était drôle. Bon, ça n'avait pas grande valeur, mais c'était drôle. Et il m'a raconté son histoire. Je lui dis, mais d'où ça vient, ça, monsieur ? Expliquez-moi. Et il me dit, ben voilà, dans les années 50, monsieur, j'étais portier au Ritz et puis je voyais passer monsieur Hemingway. Il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait. Donc je suis allé acheter un livre de poche et puis je lui ai ramené, j'ai fait signer. Bon, ça. Ce ne sera pas très cher, ce sera vendu, vous l'aurez pour, je sais pas, 400-500 euros, mais il y a toute une histoire. C'est Hemingway, c'est le livre, et puis il y a toute l'histoire de ce type.
Et oui, et ce qui est également important, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre ancien, dans la bibliophilie, c'est le caractère unique bien souvent des exemplaires. Je dis toujours qu'une édition originale des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, c'est intéressant, c'est bien. Souvent elle est reliée d'ailleurs. Mais s'il n'y a pas de dédicace, s'il n'y a pas d'envoi, bon, mais si jamais j'ai l'exemplaire de la présidente, donc relié spécialement par Baudelaire pour la présidente c'était une dame qu'il convoitait, d'ailleurs il a réussi à ses fins, c'était pas une affaire paraît-il, mais enfin, toujours, ils avaient toujours une histoire. Et là, nous n'irons pas plus loin dans notre propos, mais moi je rêverais de tomber sur une édition originale, donc des Fleurs du Mal, avec un envoi de Baudelaire à Madame Duval, avec en plus un croquis de Baudelaire, leur représentant. Mais là, comme dirait ma nièce, c'est le top. Parce que tout d'un coup, on rêve. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a le livre lui-même, l'objet, disparaît d'une façon de passer, même si c'est un bel objet, car l'objet est beau, disparaît pour... Là, tout d'un coup, on passe dans non pas dans le rêve, mais dans le concret de l'histoire, du récit, dans le rêve. C'est exactement la même histoire que Le vieil homme et la mère.
Oui, bien sûr. Vous avez trouvé le mot, c'est-à-dire le rêve, la magie. Et en même temps, c'est le rêve, c'est la magie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps, c'est très matériel, je dirais, dans le sens de la sensualité. C'est-à-dire qu'il y a un toucher, on le voit, on le touche. Et c'est ça finalement le Grand Palais, l'intérêt du Grand Palais. On entend parler de choses parfois extraordinaires, mais au Grand Palais, les gens qui viendront pourront, les objets dont vous avez parlé, dont j'ai parlé, les livres, les manuscrits, pourront les voir, les toucher, les sentir. Et ça, c'est merveilleux dans un monde de plus en plus virtuel. C'est la possibilité, encore une fois, d'avoir, je répète, ce contact physique presque direct avec ceux qui ont fait notre histoire, notre civilisation. Et ça, c'est prodigieux. Mais en plus, je veux dire, il y a un aspect ouverture, parce que c'est pas du tout morbide, c'est pas du tout passéiste. Mais vous savez, j'ai eu une lettre de Victor Hugo qui disait qu'il n'a pas de passé, n'a pas d'avenir. Ben effectivement, le contact et le lien avec tout cela, avec notre passé, notre histoire, c'est le même contact qu'un être humain avec sa mémoire, avec sa propre mémoire. Comment se projeter dans l'avenir, comment se mouvoir dans le présent, si en même temps on ne peut pas s'appuyer sur le passé, la connaissance et la maîtrise de notre passé. Et finalement, c'est ça.
Mais d'une certaine manière, on peut aller à des découvertes, car 150 exposants, je ne sais pas combien cela peut représenter de volume ou de titre. C'est assez considérable. Et quand on arrive devant ces stands, ces bourrées de bouquins, il y en a quelques-uns qui sont présentés d'une manière plus précise, mais où aller ? On est un petit peu perdu. Et certains arrivent avec une liste. Bonjour monsieur le libraire, est-ce que vous avez l'édition originale de... Où est-ce que vous avez ce titre ? C'est presque moins amusant, parce que ça, c'est la recherche du collectionneur, mais c'est d'arriver et puis de regarder, de faire le tour des rayonnages. Et là, on va récolter une mémoire qu'on ne connaissait pas parfois.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est le cas le plus fréquent. Je crois que c'est la meilleure façon aussi d'arriver, c'est de se laisser porter un peu au long des allées, de regarder. Je crois que, bien sûr, vous avez ce que j'appelle... un peu vulgairement, le noyau dur des collectionneurs, mais qui ne constitue finalement qu'une petite minorité au regard du public que nous attendons et que nous avons eu la fois précédente. Donc je crois que pour ceux-là, il faut leur dire que ce sera l'émerveillement, qu'ils ne pourront pas tout voir, mais qu'en tout cas, ils pourront compter sur les libraires pour que ceux-ci leur expliquent les choses, leur présentent les choses. Vous savez, ce sont souvent des gens passionnés qui aiment ce qu'ils font et qui savent présenter les choses avec l'ensemble des éléments de connaissances qui permettent de les apprécier.
Oui, il y a ceux qui ont été professeurs, ceux qui ont été médecins, ceux qui ont été notaires, ceux qui ont été marchands d'autres choses, parce qu'ils viennent de tous les horizons, ces personnages.
Ah oui, bien sûr.
C'est un monde particulier, ils ont leur propre histoire, ces libraires.
Oui, alors on n'a parlé que de moi, si je puis dire. Moi-même, j'ai été, c'est une expérience, j'ai été professeur d'histoire et je me souviens, puisque dans ma famille, nous sommes marchands autographes presque de génération en génération, mais je me souviens d'avoir fait un cours, avant de faire ce métier, j'étais professeur d'histoire, donc d'avoir fait un cours sur la Révolution française, et je me souviens que ce jour-là, je leur parlais de Danton, Marat, Robespierre, du comité de salut public, et j'avais amené des documents de Danton, Marat, Robespierre. Alors bien sûr, on ne peut pas généraliser, multiplier ce genre d'intervention, parce que vous faites toucher ces papiers par 100 personnes et ils tombent en poussière, mais une fois... Et je peux vous dire que c'est une expérience extraordinaire, tant pour eux, parce qu'ils viennent me voir, ils viennent me voir régulièrement, mes anciens élèves, que pour moi comme professeur. C'est pouvoir parler, pouvoir leur exprimer que ces noms qu'ils trouvent dans les livres, bah, ils ont un peu la preuve, si vous voulez, concrètement, que ces personnages existaient. Ils étaient là, dans la salle, pendant qu'on en parlait.
Oui, là j'ai sous les yeux quelques exemples d'ouvrages qui seront présentés par différents libraires. J'ai par exemple Stèle de Victor Segalen. C'est un ouvrage de poèmes qui a été imprimé en plus à Pékin. Donc déjà, tout d'un coup, nous partons pour la Chine. Nous avons l'histoire de Victor Segalen, nous avons ses expéditions, nous en avons d'autres. Un petit peu plus loin, j'ai une Bible, une Biblia Sacra, qui date du XIIIe siècle. Alors tout de suite, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas un imprimé, c'est un manuscrit. Alors, ce qui est quand même aussi curieux, c'est que bon, la Bible de Gutenberg, ça fait rêver. Il y en a une qui n'est pas loin d'ici, de notre studio, puisqu'il y en a une à la Mazarine. Il faut savoir aussi que Gutenberg, en fin de compte, a voulu faire des économies. Le manuscrit, enfin du moins plus exactement la première Bible imprimée, doit ressembler à un manuscrit. À telle enseigne qu'on l'a accusé de diablerie, car on ne pouvait pas pouvoir copier de cette manière aussi rapidement. Là aussi, il y a également une histoire. Il y en a environ sans doute 120 exemplaires. Il en reste une vingtaine à peu près complète. J'ai aussi une planche d'un des ouvrages d'Androne Paré, On voit une grosse baleine. Ambroise Paré, c'est le médecin de la Renaissance. Là également, nous avons François Ier, nous avons un peu tout le monde. Nous avons même un Blake et Mortimer, donc l'énigme de l'Atlantide. Alors, il faut savoir aussi une chose amusante, c'est que tout le monde est persuadé que c'est très bien et très moral, c'est que l'un des volumes de Blake et Mortimer avait été censuré quand il est sorti. Mais ça, c'était dans un autre temps.
Ça, je ne savais pas quel, ouais. lequel
c'est le premier tome de La Guerre des Mondes, qui n'avait pas eu l'ordre de plaire, mm-hmm. parce que, en plus, le siège était au Tibet, donc nous sommes en pleine actualité. Ça, c'est une autre histoire. Nous aurons Les Amours de Ronsard de 1553, avec l'effigie de Ronsard et de la belle dame au sein nu qui a fait rêver nombreux d'écoliers quand il l'avait dans les livres, dans les reproductions du Lagarde à Michard. On a aussi un exemplaire d'Aphrodite de Pierre-Louis avec dédicace, avec cette grande écriture qu'il pouvait avoir. Dans le fond, on pourrait dire qu'Aphrodite, c'est un faux, car il avait présenté ça comme la traduction d'un texte grec ancien. Et là encore, nous avons une histoire.
Bien sûr.
Et à chaque fois, si vous voulez, quand on prend un livre, ça revient à mon exemple de tout à l'heure, Les Fleurs du Mal, oui, c'est bien, mais il faut qu'en plus, il ait quelque chose.
Oui, mais je retrouve dans cet exposé passionné le chroniqueur averti et apprécié de tous les amateurs de livres anciens. Et bien, effectivement, vous avez raison, tout à fait. Si je peux me permettre de donner un exemple pour ma part, dans ma spécialité, donc les manuscrits, j'ai un petit papier, trois lignes, bien sage, signé Louis. Je plante le décor. Danton, pendant la Révolution française, explique que le mariage de Figaro de Beaumarchais a préparé les esprits pour la Révolution française. Madame Campan, amie de Marie-Antoinette, dit que c'est un livre détestable, il aurait fallu le supprimer tout de suite, immédiatement. Plus loin, Flaubert, dans le Dictionnaire des idées reçues, écrit au chapitre Beaumarchais, le mariage de Figaro a préparé les esprits pour la Révolution française. Et je reviens à mon petit manuscrit, trois lignes, bien sages, sur un tout petit bout de papier, signé Louis, et on lit... Monsieur, j'ai lu et fait lire le mariage de Figaro de Monsieur de Beaumarchais. Le censeur ne doit en autoriser ni la représentation, ni l'impression, signé Louis. Bon, moi, c'est un plaisir infini, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on est au confluent de l'histoire, l'histoire littéraire, l'histoire tout court, enfin la grande histoire. Nous, notre histoire, là où nous sommes aujourd'hui, tout vient de là. Alors bien sûr, l'histoire est plus compliquée puisque la pièce a été jouée quand même, enfin, mais dans certaines circonstances. Mais enfin bref, on a là un véritable, en trois lignes, eh ben, c'est tout le fracas de la Révolution française qu'on croit entendre au travers de cela. Et c'est vrai que c'est fabuleux. Alors vous dites, c'est bien, mais ce serait mieux. Ben, prenons un exemple, vous avez une lettre d'Henri IV. Henri IV, c'est fabuleux. On pourra trouver au Salon du Grand Palais des lettres d'Henri IV, des lettres autographes à la main d'Henri IV. Mais si vous avez une lettre d'Henri IV à Sully, c'est encore mieux. Bon, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ou par exemple, bon, en ce moment, j'ai un papier d'Oscar Wilde. Il est en prison, condamné pour homosexualité. Il écrit la balade de la Géole de Reading. Il écrit à un écrivain français, pour lui dire qu'il le charge de prendre en compte et de s'occuper de ses droits littéraires en France. Bon. Et donc, il signe ce papier et il le signe. Et il signe Oscar Wilde. Et le lieu fait exploser le texte, Géole de Reading. Bon, oui. Vous voyez, ces gens. Bon, c'est ça. Et c'est ça. Ce sera ça, le Grand Palais. C'est la magie. C'est le mystère. Oui. C'est bon à chaque mètre, à chaque stand.
Oui. C'est-à-dire que si on ne peut pas acquérir un ouvrage ou un autographe parce qu'on n'en a pas les moyens, et ce qui, en plus, donc comme vous lisiez tout à l'heure, on peut parler avec le libraire, mais aussi avec l'amateur qui est également là présent, qui lui en sait aussi beaucoup. Car il y a des conversations qui se nouent. On découvre aussi autre chose, un petit peu. On ne peut pas être déçu. Non,
ça, je ne crois pas. Ça, je peux vous assurer. Non, je peux vous assurer. Je peux assurer à tous ceux qui viendront au Grand Palais qu'ils ne seront pas déçus. Ils seront peut-être... Je pourrais prendre un exemple, tiens. C'est Michelet qui raconte. Il raconte, il est jeune historien. Et un jour, il rentre dans la bibliothèque royale, enfin, je ne sais plus. Bon. Et il passe au milieu des casiers dans lesquels il y avait... tous les manuscrits accumulés depuis François Ier, etc. Et il raconte cette expérience. Alors imaginez que vous passez, je ne dis pas que c'est ça qui va vous arriver en passant dans les allées du Grand Palais. Mais il passe au milieu de cela et il explique, il raconte qu'il a vu. C'était une expérience physique, comme s'il était pris à la gorge par ces millions d'anonymes qui étaient dans les casiers, qu'il prenait à la gorge et qu'il lui insufflait finalement cette volonté de retrouver, de reconstruire la vie, de reconstruire l'histoire. Enfin bref, sa théorie de l'histoire dont on peut discuter. Mais en tout cas, une expérience physique. Alors, je ne dis pas encore une fois qu'on aura cela, qu'on vivra cela, qu'on va s'évanouir dans les allées du Grand Palais, mais je pense qu'il y aura des expériences très fortes pour les uns et pour les autres.
Permettez-moi aussi une anecdote. Allez, tant pis.
Allez, allons-y.
Tant pis. J'ai eu la chance de pouvoir toucher les quelques 10 000 raretés, pas toutes naturellement, de la bibliothèque de Chantilly. Vitrine ouverte, avec une peur infinie, c'est de ne pas remettre en place, bien sûr, les volumes. J'étais avec un ami libraire et le conservateur, et nous étions comme des enfants. Viens voir là, là, tu as du fouillou sur Vélin. Et là, et nous nous appelions comme cela à chaque fois qu'on faisait des découvertes. Là, il y avait quelque chose d'extrêmement physique, parce que, certes, il y avait des volumes, mais c'était un du fouillou sur Vélin, on n'en voit plus. Dufouillou, c'est un traité de chasse, un traité de vénerie. Il y avait un petit traité grec dont j'ai oublié le nom. Et c'était également physique. On trouve, quand on prend une reliure en plein veau ancienne ou en plein marocain, on le touche. On le touche. Il faut le toucher. Ensuite, on ouvre le livre. C'est un peu comme un film, finalement. On ouvre le livre et on voit ensuite les pages de garde. Ensuite, on a le papier qui craque. Ça dévend le papier, parce qu'il y a plusieurs sortes de papier. On dit le grand papier, mais il y a plusieurs sortes de grands papiers, entre le papier Hollande, le papier de Chine, le papier Japon, et on va pas faire un cours maintenant. Et puis ensuite, on découvre la typographie, comment l'ordonnancement de la page. Ensuite, on découvre éventuellement une illustration. Alors, est-ce que c'est une gravure sur bois? Est-ce que c'est une gravure sur cuivre? Est-ce que c'est une gravure sur acier? Et ainsi de suite. Parfois, il y a aussi, alors, ce qui est important, ce qui revient dans l'histoire, il y a un ex-libris. Cet ex-libris, ça vient de la bibliothèque d'un tel. Parfois, il y en a plusieurs ex libris, parce qu'il y a également quelque chose d'important que vous trouvez, c'est ce que j'appelle la généalogie des livres. Ils passent les uns après les autres.
Écoutez, je crois que, pour résumer en un mot, ce que vous venez de dire, ça s'appelle la sensualité. Et je crois que c'est ça aussi, c'est un des aspects essentiels de la passion qu'on peut avoir pour ce genre de choses, c'est la sensualité, parce qu'on touche, on sent, on regarde. Et ça, c'est ce que vous ne trouvez pas, par exemple, si vous consultez Internet.
Non.
Par exemple.
On peut lire à Internet, on peut lire comme dans un livre, parce que les livres aussi, c'est bien beau de les toucher, mais il faut les lire. Mm-hmm. C'est-à-dire que avoir une très belle reliure, c'est bien, mais une très belle reliure sur un texte
médiocre,
sur un recueil, ça n'a aucun intérêt. À part peut-être un livre de poche, comme vous le citiez tout à l'heure, on ne relit pas un livre de poche. En ce moment-là, on met dans une boîte si on veut le garder.
Oui, oui.
Et c'est vrai qu'Internet, on peut lire. Et encore, c'est difficile, il faut le tirer sur papier. Et c'est évident, mais c'est toute la différence. Internet pourrait être le complément. Ça permet de retrouver un livre, mais ça, c'est encore un autre débat.
Non, c'est un instrument technique incomparable, commode, etc., mais qui ne remplacera jamais les impressions que vous pourrez avoir, même sans acheter, mais simplement en regardant et en consultant et en touchant, l'ensemble de ces choses. Et alors, si vous me permettez, je rebondis sur l'exemple que vous donnez d'une bibliothèque publique pour vous dire quand même que le syndicat La Librairie Ancienne et Moderne, que je préside, que j'ai l'honneur de présider, est un syndicat qui a toujours considéré. Mais déjà longtemps dans le passé, le SLAM a été fondé en 1914, que les professionnels étaient fondés à avoir des rapports, je dirais, de collaboration avec les institutions publiques. Et c'est ainsi, par exemple, je crois qu'un des articles qui a été voté dans les années 20 indiquait que les libraires avaient pour point d'honneur de proposer aux institutions publiques les choses qui leur paraissaient dignes des institutions publiques, des choses exceptionnelles. Et donc, c'est tout à fait naturellement que lors de nos salons, nous avons l'habitude de mettre à disposition un espace relativement important à une institution publique. Donc, on a eu les Archives de France, on a eu les musées, les bibliothèques d'Albi, de Reims, de Versailles. Enfin bref, j'en oublie sans doute. Et cette année, l'invité, et c'est un grand honneur pour nous, sera la Bibliothèque nationale de France qui, je crois, présentera des choses exceptionnelles. Donc, c'est un autre aspect aussi de pourquoi aller au Grand Palais au mois d'avril. Parce que non seulement il y aura donc les marchands venus du monde entier, plus de 150 marchands, 30%, une cinquantaine d'étrangers qui présenteront des choses extraordinaires que vous pourrez voir, toucher, sentir, acheter éventuellement. Et puis, la Bibliothèque nationale de France qui proposera et qui montrera des choses exceptionnelles que, bien sûr, vous ne pourrez pas acheter, mais que vous pourrez voir et apprécier. Je crois que, bon, sans déflorer l'ensemble, je crois qu'il y aura, par exemple, l'exemplaire de Montaigne d'Elisabeth Ier d'Angleterre. Enfin, bon, bref, des choses exceptionnelles.
Ben écoutez, je crois que nous n'avons plus qu'à nous rendre à ce rendez-vous du 18 au 20 avril au Grand Palais et donc de toucher, de voir et... Encore un mot peut-être.
Oui, pardon, un mot. Non, parce que, bon, je tiens à en parler parce que cette année, nous, conjointement à l'exposition de la Bibliothèque nationale, nous organiserons des conférences. Et en particulier, trois conférences dont je voudrais dire un mot. Le professeur Vigarello, qui est professeur à l'EHSS, donnera le jeudi soir son cours, le cours qu'il a l'habitude de donner à l'EHSS, dans l'enceinte du Grand Palais. Donc je crois que ça aussi, c'est important. Le lien avec les milieux universitaires, la recherche, la pédagogie. Ensuite, nous aurons deux conférences. Une conférence de l'amiral Bellec, sur la marine, les voyages, les livres. Mmh. Et puis une conférence de Stéphane Martin, qui est le président du musée du Quai Branly, qui lui aussi interviendra sur écrivains et voyageurs. Et donc je crois que cela complète l'ensemble qui fait que c'est pas simplement un événement commercial, mais c'est aussi un événement culturel à la gloire, je dirais, oui, à la gloire du livre, de l'écrit, du patrimoine écrit.
Je vous remercie.
Merci à vous.